Chapitre 6. 1. Le prêtre syrien s'éveilla brusquement, sur un cauchemar. Il avait rêvé que des milliers de visages le considéraient, attentifs et horribles, dans le coin de la terrasse du toit où il couchait à présent, depuis que la chaleur de sa petite chambre avait cessé d'être supportable. Il se redressa tout en sueur et ayant beaucoup de peine à reprendre son souffle. Il eut même l'impression pendant quelques instants qu'il était en train de mourir et que c'était déjà le monde surnaturel qui l'entourait. Mais bientôt, à force d'efforts, il reconquit ses sens. Il se leva, s'habilla et aspira de longues bouffées de l'air étouffant de la nuit. Au-dessus de lui, le ciel était comme un immense trou, noir et vide. Ses yeux n'y distinguaient pas le moindre rayon de lumière, encore que la lune fût certainement levée, car il l'avait vue, 2 heures auparavant, semblable à une faucille rouge, montée lentement derrière le tabord. Dans la plaine non plus, ses yeux n'apercevaient rien qu'une infinité de ténèbres. D'une fenêtre seulement, au-dessous de lui, sortait un reflet de lumière qui se projetait sur le sol comme une lance tordue. Mais au-delà, rien. Rien non plus du côté nord, ni de celui de l'est. À l'ouest, une lueur aussi faible et pâle que l'aile d'une phalène révélait l'emplacement des maisons de Nazareth. Le prêtre aurait pu se croire sur le haut d'une tour, dans un désert, s'il n'y avait eu ce reflet brisé à ses pieds et cette vague lueur dans le lointain. Sur le toit même, du moins, le Syrien parvenait à distinguer certains contours, car la trappe était restée ouverte par où débouchait l'escalier, et un peu de lumière arrivait ainsi de quelque part dans les profondeurs de la maison. Dans le coin le plus proche, un paquet blanc gisait. C'était sans doute l'oreiller de l'abbé bénédictin. Le prêtre avait vu l'abbé s'étendre là précédemment. Mais était-ce 2 heures auparavant, ou bien 2 siècles? Une forme grise s'allongeait contre le mur, probablement le frère qui était venu avec l'abbé. Et d'autres formes irrégulières apparaissaient, çà et là, contre le parapet de la terrasse. Marchant très doucement, pour n'éveiller personne, il traversa le toit dallé jusqu'à son extrémité opposée, et de nouveau regarda au dehors, car toujours il était torturé du désir de se persuader qu'il restait vivant et se trouvait encore dans le monde des hommes. Oui, vraiment, il vivait encore. Cette fois, il voyait une lumière bien distincte et réelle qui brillait parmi les rochers voisins. Et, à côté d'elle, se dessinant avec la délicatesse d'une miniature, se montraient la tête et les épaules d'un homme occupé à écrire. Et d'autres figures surgissaient dans le cercle de la lumière, des figures étendues sur le sol et qui semblaient dormir, sans compter quelques poteaux fichés en terre, pour servir de support à une tente qui devait être dressée le matin, et 5 ou 6 petits tas de valises sous des couvertures de voyage. Et, par-delà le cercle, d'autres formes et contours se perdaient dans les prodigieuses et effrayantes ténèbres. Puis l'homme qui écrivait remua la tête, et une ombre étrange vola sur le sol. Un cri, comme l'aboiement étranglé d'un chien, retentit tout à coup derrière le prêtre, et celui-ci, en se retournant, aperçut une figure effrayée qui se réveillait et faisait effort pour se redresser, évidemment, sortie d'un cauchemar comme celui dont le prêtre lui-même venait de sortir. Une autre figure s'agita, au bruit, et toutes deux retombèrent lourdement contre le mur, avec des soupirs angoissés. Sur quoi le prêtre s'en retourna à l'endroit où il avait dormi, l'âme toujours en doute de la réalité de ce qu'il voyait. Et le silence accablant descendit sur la terrasse. Le prêtre s'éveilla de nouveau, après un sommeil sans rêve, et constata qu'un changement s'était produit. Du coin où il gisait, ses yeux alourdis, lorsqu'il les releva, rencontrèrent un éclat qui leur parut impossible à soutenir. Mais le prêtre, dès la minute suivante, découvrit que cet éclat se réduisait simplement à la flamme d'une chandelle, derrière laquelle brillaient 2 énormes yeux noirs. Le Syrien comprit, et se releva précipitamment. C'était le messager de Damas qui, ainsi que cela avait été arrangé la veille, venait le réveiller, après être resté auprès du pape durant toute la nuit. En traversant la terrasse, il regarda autour de lui, et il lui sembla que l'aube devait être venue, car le sinistre ciel, au-dessus de lui, était enfin devenu visible. Une voûte énorme, opaque et couleur de fumée, se recourbait jusqu'à l'horizon spectral de l'autre côté de la plaine, où les monts lointains projetaient des formes aiguës, comme découpées dans une feuille de papier. Devant lui apparaissait le Carmel, ou, du moins, il supposait que c'était cette montagne, quelque chose comme le mufle et l'épaule d'un taureau s'élançant en avant et aboutissant à une descente brusque. Au-delà, de nouveau, le gris lugubre du ciel. Et il n'y avait pas de nuages, pas l'ombre d'une ligne ou d'une tache, pour rompre l'immensité du dôme fumeux sous le centre duquel, exactement, le toit de la maison semblait posé. Et puis, au moment où le Syrien jeta un coup d'œil vers la droite, avant de descendre les marches, il aperçut encore Esdraélon, s'étendant sombre et morne, dans l'espace imprégné comme d'une buée métallique. Mais tout cela était aussi monstrueux, aussi profondément éloigné de la réalité ordinaire, qu'aurait pu l'être un paysage fantastique peint par un aveugle né, ou plutôt par un homme qui jamais n'aurait vu les choses dans la claire lumière du soleil. Et le silence était absolu, profond, épouvantable. Très vite, le prêtre descendit les marches raides, toujours précédé de la lumière que portait le messager. Puis il longea le petit corridor, où il se heurta contre les pieds d'un homme qui dormait, avec tous ses membres tassés, comme un chien fatigué. Aussitôt les pieds s'écartèrent d'une détente machinale. Un faible gémissement jaillit des ténèbres. Puis le prêtre dépassa le messager qui s'était arrêté sur le seuil d'une porte et pénétra dans la chambre de son maître. Une vingtaine d'hommes étaient réunis là, blanches figures silencieuses, chacun se tenant debout à part des autres. Et toutes ces figures s'agenouillèrent lorsque, presque au même moment, le pape entra dans la chambre par la porte opposée. Et puis, de nouveau, elles se tinrent debout, attentives, les visages imprégnés d'une blancheur de cire. Le Syrien les parcourut d'un regard, après s'être placé derrière le siège de son maître. Il y en avait deux qu'il connaissait, se souvenant de les avoir vus la nuit précédente. Le cardinal Ruspoli avec ses grands yeux creusés et le maigre archevêque australien. Et il reconnut aussi le cardinal Cochran, debout près de sa chaise, à la droite du pape, avec une liasse de papier à la main. Sylvestre s'assit et, d'un geste, invita les autres à s'asseoir. Puis, tout de suite, il commença de parler de cette voix fatiguée et tranquille que son serviteur connaissait et aimait. « Éminence, nous voici tous réunis, du moins je présume que personne d'autre n'est encore arrivé. En tout cas, nous n'avons plus de temps à perdre. Le cardinal Cochran a quelque chose à vous communiquer. » Il se tourna affectueusement vers le Syrien. « Mon père, asseyez-vous aussi, ce sujet va nous demander quelque temps. » Le prêtre traversa la chambre jusqu'au rebord de pierre de la fenêtre, d'où il pouvait apercevoir nettement le visage du pape, à la lueur des deux chandelles qu'il brûlait sur la table entre Sylvestre et le cardinal secrétaire. Puis ce dernier parla, les yeux toujours fixés sur ses papiers. « Sainteté, je ferais mieux de reprendre les choses d'un peu plus haut. Leurs éminences, peut-être, ne connaissent pas tous les détails. Donc, voici. Le vendredi de la semaine passée, à Damas, j'ai reçu des questions de divers prélats, dans les diverses parties du monde, au sujet de l'attitude à adopter en présence des nouvelles mesures de persécution. D'abord, je ne pus répondre rien de positif, car ce n'est qu'à 20 heures passées que le cardinal Ruspoli de Turin me mit au courant des faits. Le cardinal Malpa me confirma les mêmes faits quelques minutes après, et le cardinal archevêque de Pékin les confirma à son tour presque simultanément. Le lendemain samedi, avant midi, j'avais reçu tous les renseignements authentiques de mes messagers de Londres et de New York. J'avais été tout de suite surpris de voir que le cardinal Dolgorukov ne joignit point sa communication aux autres. Les seules nouvelles qui me fussent parvenues de Russie, ce vendredi soir, m'étaient envoyées par un prêtre faisant partie de l'ordre du Christ crucifié à Moscou. À la suite d'une enquête qu'avait ordonnée sa sainteté, j'appris que les affiches officielles à Moscou avaient parfaitement annoncé les décrets dès 22 heures, comme dans les autres villes. Aussi était-il singulier que le cardinal Dolgorukov n'eût pas été informé, ou que, en ayant été informé, il n'eût pas accompli son devoir qui était de m'avertir sur le champ. Mais, depuis lors, éminence, les faits suivants sont venus au jour. Nous savons désormais, sans l'ombre d'un doute possible, que le cardinal Dolgorukov a reçu un visiteur mystérieux dans la soirée du vendredi. Toutefois, sa sainteté m'a enjoint de me conduire avec le cardinal Dolgorukov comme si rien de suspect ne s'était passé et de le convoquer ici pour notre réunion présente avec le reste du sacré collège. À quoi le cardinal tout d'abord a répondu en promettant sa venue. Mais hier, un peu avant midi, son éminence m'a fait savoir qu'elle venait d'être victime d'un léger accident qui pourtant ne l'empêcherait point, selon toute probabilité, de se trouver ici à l'heure convenue. Depuis lors, je n'ai plus reçu aucune autre nouvelle. Cette communication fut accueillie par un silence de mort. Le pape se tourna vers un des coins de la chambre. « Mon fils, dit-il, répétez-nous publiquement ce que vous nous avez déjà rapporté en particulier. » Un petit homme aux yeux brillants sortit brusquement de l'ombre. « Sainteté, dit-il, c'est moi qui ai apporté le message au cardinal Dolgorukov. D'abord, il a refusé de me recevoir. Mais lorsque je me suis frayé un passage jusqu'à lui et lui ai communiqué la convocation, il est resté longuement silencieux. Et puis, en souriant, il m'a dit d'informer son éminence de Damas qu'il ne manquerait point d'obéir. » Il y eut de nouveau un terrible silence. Tout à coup, le grand et frêle Australien se leva. « Sainteté, dit-il, j'ai été jadis intimement lié avec cet homme. Mais nos relations amicales ont cessé depuis 10 ans. Et je crois devoir dire que, d'après ce que j'ai malheureusement pu connaître de lui, je ne trouve point de difficulté à admettre. » Sa voix tremblait de passion, mais Sylvestre l'arrêta en levant la main. « Éminence, dit-il, il n'est pas besoin de récriminer. Nous n'avons plus même besoin de preuves, car ce qui devait se produire a eu lieu. Nous-mêmes, d'ailleurs, nous ne doutons point de la nature de l'acte commis par cet homme. C'est à lui que le Christ a donné la bouchée de pain, en lui disant « Ce que tu es en train de faire, fais-le vite ». Et lorsque cet homme eut reçu la bouchée, il sortit aussitôt et déjà la nuit était venue. Une fois encore, le silence tomba. On entendit seulement un long soupir au dehors, derrière la porte. Sans cesse, de tels soupirs s'élevaient, lorsque s'éveillait l'un des voyageurs épuisés qui dormait dans le couloir. Et ces soupirs étaient pareils à celui d'un homme qui, au sortir des ténèbres, retrouverait d'autres ténèbres remplaçant la lumière attendue. Puis Sylvestre de nouveau parla, et, tout en parlant, il se mit à déchirer, comme d'un geste machinal, un long papier tout couvert de listes de noms qu'il avait pris sur la table. « Éminence, dit-il, il faut que vous sachiez ceci. Il faut que vous sachiez que, du moins à ce que je crois, cette fin est venue dont a parlé notre Sauveur, ce dernier temps du monde dont aucun homme n'a connu le jour ni l'heure. Et notre Sauveur a dit encore, lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre ? » Il s'interrompit dans l'occupation de ses mains et, montrant aux auditeurs ce qui restait de la feuille, « Ceci, reprit-il, était une des affaires que nous avions à traiter. » C'était la liste des évêques à qui nous devions communiquer les décisions adoptées par notre assemblée. Mais désormais cette liste ne peut plus nous servir à rien. Mes fils, me comprenez-vous ? Que celui qui sera sur le toit de sa maison, a dit notre Sauveur, qu'il se garde bien de descendre pour emporter quelque chose de sa maison. Que celui qui est dans les champs se garde bien de retourner chez lui pour prendre son manteau. et Sylvestre sourit doucement, paternellement, au visage recueilli qui l'entourait. Ce que nous pouvons faire maintenant se réduit à peu de choses. Écoutez, mes fils. Et il leur parla de la grande faim et de la barque de pierre qui avait erré à travers une nuit de 20 siècles, et du maître qui dormait dans la barque et de son grand réveil. Et pendant qu'il parlait ainsi, le prêtre syrien, toujours attentif à le considérer, vit un changement étrange se manifester sur son visage. Plusieurs fois, le Syrien ferma les yeux et les rouvrit, pensant que l'illusion allait s'effacer. Mais, chaque fois, la certitude s'approfondit en lui qu'il avait devant les yeux une chose que jamais encore il n'avait pu voir. Il promena un coup d'œil sur le reste de l'assistance, et il vit que tous ses visages, eux aussi, les lèvres ouvertes, regardaient avec émerveillement la transformation accomplie sur le visage du vicaire du Christ. Et ce visage lui-même ? Il sembla au prêtre syrien qu'une lumière était allumée à l'intérieur de ce visage, aussi visible et matérielle que la lumière des bougies qui s'y reflétaient. Tout à fait comme, parmi des flammes sur l'autel, l'hostie sacrée brille d'une blancheur qui dépasse en rayonnement tout ce qui l'entoure, et la pâleur d'étoiles, et l'étincement de l'or et des joyaux, et la pureté candide des lys, de même le visage de Sylvestre brillait durant ces minutes d'extase. Et ses mains calmes, elles aussi, posées sur la table, avaient pris la même transparence surnaturelle. Et ses robes blanches, comme celles d'un autre jadis sur le Tabor, étaient devenues infiniment plus blanches, à un degré où ne saurait atteindre le travail d'aucun foulon sur la terre. Et sa voix, maintenant, différait des accents ordinaires des bouches humaines, autant que la vibration du verre diffère du grincement des trompettes et des batteries de tambour. Et aucun bruit ne venait du reste de la chambre, car les assistants regardaient et écoutaient sans remuer. Et il semblait au prêtre que chacun d'eux avait également sa part du tranquille et sublime miracle. La petite chambre crépit à la chaux, les vieilles tables, les chandeliers, tout l'ensemble du monde, où, pour quelques instants encore, ces hommes vivaient, se trouva changé et transfiguré. « Voyez, s'écria Sylvestre, voyez comme toutes choses attendent déjà le juge qui s'approche. De très loin, voici venir les aigles dont il a parlé, conduits par le prince qui n'a rien en lui. » Il étendit ses mains d'un mouvement brusque et large. « Ne les voyez-vous pas ? » s'écria-t-il, « ne les voyez-vous pas ?» Et alors, pour un bref instant, le prêtre syrien qui l'écoutait eut lui-même un éclair de vision, et pendant quelques secondes aussitôt envolées, il put voir lui-même ce que voyait Sylvestre. La mer immense s'étendait au-dessous de lui, noire sous le ciel sans étoiles, et piquée seulement çà et là d'une petite tache blanche qui trahissait son mouvement infini. Et au-dessus d'elle, tout juste devant les yeux du Syrien, s'ouvrait la cabine illuminée d'un vaisseau volant. Un homme s'y tenait assis à plus de 1000 pieds au-dessus des vagues. Un autre était assis en face de lui, et, entre les deux, se dressait une table toute couverte de papier. L'un des deux hommes, d'un geste du doigt, désignait un point sur une carte, et tous deux souriaient, le visage rayonnant d'attente et de plaisir. Les moindres détails de la scène apparaissaient avec une réalité merveilleuse. Les douces lumières des lampes, le tapis épais et moelleux, la porte de cristal, et les visages de ces deux hommes que le prêtre syrien n'avait jamais vus, se révélaient à lui non moins clairement. La chevelure blanche et les traits juvéniles de l'un, avec ses yeux profonds et sa fine bouche éloquente, et puis le visage, un visage fatigué et tiré, de l'autre, mais à 7 minutes tout allumé d'espoir. Voilà ce que vit le prêtre, et non point comme voient les yeux, mais comme voit l'esprit. Il vit ce que les yeux ne sauraient voir, car tout lui apparut sur un même plan. La mer au-dessus, le vaisseau blanc qui courait, l'intérieur du vaisseau, et les moindres détails des visages et les cartes géographiques étalées sur la table. Mais il vit bien plus encore que cela, car il comprit aussitôt qui étaient ces hommes et ce qu'ils pensaient, à quelle action ils se préparaient. Et en même temps, il eut très nettement la notion du pitoyable échec de leur entreprise. Il vit ces hommes volant à la mort éternelle, tandis qu'ils s'imaginaient qu'ils allaient enfin obtenir leur victoire. Il sut pourquoi ces hommes étaient assis là, pourquoi ce vaisseau courait de toute sa vitesse à travers le monde, pourquoi cette troupe d'aigles s'était rassemblée des quatre coins du globe, armée de sa puissance irrésistible. Il sut que ce qu'il apercevait ainsi était le résumé de toutes les forces de la terre, unis pour procéder à leur dernière victoire sur les derniers soutiens de la foi du Christ. Il sut tout cela, et cependant, aucune ombre de peur n'était en lui. Car, dans cette même vision d'extase, il découvrait aussi un autre monde, transcendant et supérieur à toutes les imaginations humaines, un monde de volonté et d'esprit, en comparaison duquel tout l'univers terrestre n'était que poussière infirme, aussitôt dispersée. Ce à quoi toujours, en sa qualité de prêtre chrétien, il avait aspiré, ce dont toujours il avait vécu sans le voir, c'était cela qui était en train, maintenant, de passer du champ de sa foi dans celui de sa vue. Maintenant, dans cette seconde infinie, son âme n'avait plus besoin d'aucun effort pour s'élever à ce monde supérieur, car c'était ce monde seul qui devenait réel, tandis que l'ancienne réalité s'effaçait comme un rêve passager. Et lorsque cette seconde d'illumination finit, et elle s'évanouit dès que le pape eut baissé les mains, la connaissance de tout cela resta au fond du cœur du prêtre syrien, désormais assuré et inébranlable. Il connut cette réalité surnaturelle aussi certainement qu'un homme connaît le visage de son ami. Il se la représenta aussi fidèlement que notre mémoire reconstitue l'aspect d'un jardin que lui, tout à coup, a révélé la lueur d'un éclair. Et quand, ensuite, la voix de Sylvestre continua de parler, dans un prodigieux élan d'enthousiasme, le prêtre ne perçut que le seul bruit des mots, car toute son âme persistait à regarder ce qu'il avait été donné d'entrevoir, s'ingéniant, ainsi que parfois nous faisons au sortir d'un rêve très intense, à revoir et à interpréter le spectacle prodigieux qui s'était révélé à lui. La cabine du vaisseau volant, les visages des deux hommes, leurs intentions méchantes et leurs vains espoirs. Il tourna les yeux vers Sylvestre, et ce fut à travers ce torrent d'images qu'il entendit de nouveau la voix, toute calme, de son maître, qui, cette fois, s'adressait à lui. « Mon père, il faut tout de suite que vous exposiez le Saint-Sacrement dans la chapelle. » 2. Une heure après environ, le prêtre sortit dans la cour poussé par cette même étrange impulsion de mouvement qui déjà l'avait contraint à errer par les rues du village, tel qu'un somnambule qui marche sans savoir où ni pourquoi et qui pourtant ne peut pas s'arrêter. Sur toute chose, un charme était tombé, pareil à celui qu'il subissait lui-même. De tous les hommes à qui Sylvestre avait parlé tout à l'heure dans sa chambre, aucun n'avait dit un seul mot. Tous étaient sortis en silence immédiatement. Quelques-uns avaient traversé la cour en même temps que le prêtre pour se rendre à la chapelle et s'étaient jetés là, y gisaient immobiles sur les dalles de pierre. Quelques-uns s'étaient retirés à part pour se confesser l'un à l'autre. Il les avait vus tout à l'heure pendant qu'ils s'occupaient à préparer l'autel pour l'office prescrit. Un autre, les mains pendantes, marchait de long en large devant la maison, sans arrêt, les yeux très grands ouverts et ne voyant rien. Un autre encore, saisi d'un besoin machinal de mouvement, comme le Syrien, avait lui aussi parcouru le village, se parlant très haut à lui-même, tandis que dans la lumière incertaine du monstrueux brouillard, des visages surpris le considéraient de toutes les portes des maisons. Les paroles de Sylvestre avaient eu pour effet de clore, en quelque sorte, brusquement, l'existence terrestre des auditeurs, et tous, aussitôt, avaient laissé tomber d'eux, comme un lourd manteau désormais inutile, toutes leurs pensées et occupations de ce monde. Quant au Syrien lui-même, il aurait été bien incapable de rendre compte de l'état où il se trouvait. Il lui semblait que le temps ne marchait plus, comme aussi que ce n'était pas lui-même qui remuait, mais que la terre se mouvait sous ses pieds. Et toujours, tout en changeant de place, il levait les yeux vers le ciel, du côté de l'Orient, attendant ce qu'il savait qui allait venir, avec une certitude pleinement exempte de crainte. 3. Dans le ciel, aucun changement ne s'était produit depuis une heure, si ce n'est que, peut-être, la lumière était devenue un peu plus vive lorsque le soleil avait grimpé plus haut derrière l'impénétrable voile de brume. Les montagnes, l'herbe, les visages des hommes, tout cela paraissait de plus en plus irréel. C'était comme des choses vues dans un rêve par des yeux alourdis de sommeil à travers des paupières chargées de plomb. Et cette impression d'irréalité existait même pour les autres sens. Le silence n'était pas simplement une cessation de tout son. C'était une chose en soi positive et matérielle, et dont le poids énorme n'était allégé ni par le bruit des pas, ni par les aboiements des chiens, ni par le murmure des voix. Le Syrien se disait que le calme de l'éternité avait déjà commencé à descendre, et déjà étendait son voile infini sur toutes les activités du monde agonisant. La matière gardait encore son être, occupait encore l'espace, mais elle n'était plus désormais que d'une nature toute subjective, résultant des facultés intérieures de l'âme, sans aucune substance du dehors. Et il apparaissait au prêtre que lui-même, déjà, n'était plus rattaché au reste des choses que par un fil de plus en plus mince. Ainsi, il savait que l'écrasante chaleur persistait, et, une fois même, le sol qu'il foulait de ses pieds craqua sous son contact et fuma comme un fer chaud sur lequel serait tombée une goutte de liquide. Il pouvait sentir cette chaleur sur son front et ses mains, tout son corps en était inondé. Et cependant, il ne pouvait plus percevoir cette chaleur ni ce corps que du dehors et de loin, comme ces malades qui, tout en éprouvant la douleur, s'imaginent qu'elle n'est plus en eux, mais dans le lit où ils sont couchés. Et il n'y avait plus en lui ni crainte, ni même espérance. Il considérait sa personne, le monde, et jusqu'à la présence terrible de l'esprit, comme des faits qui allaient redevenir réels bientôt, dans un instant, mais qui, à cette heure, se confondaient dans une sorte d'éternel sommeil universel. Et il ne s'étonna point non plus lorsqu'il rouvrit la porte de la chapelle, de voir que, maintenant, tout le dallage était encombré de figures étendues là, immobiles. Tous les cardinaux et tous leurs assistants étaient prosternés sur le sol, tous semblables l'un à l'autre sous les burnus blancs que lui-même leur avait distribués la veille. Et devant eux, près de l'autel, était agenouillée la figure de l'homme que le Syrien connaissait mieux et aimait plus profondément que tout le reste du monde, ses cheveux blancs se détachant sur la blancheur de l'autel. Sur cet autel brillaient les six grands cierges, et, entre eux, sur un petit trône bas, se dressait l'ostensoir de métal, avec, au milieu, le petit disque blanc. Et alors le Syrien s'agenouilla lui aussi, et resta immobile. Il ne sut point combien de temps se passa, avant que se réveillasse sa conscience individuelle et son habitude d'observation, avant que la coulée des images et la vibration des pensées eussent enfin cessé en lui et que son âme enfin se fût apaisée, comme l'eau d'un étang reconquiert lentement sa paix après avoir été troublée par le jet d'une pierre. Mais ce moment finit par arriver, cette tranquillité délicieuse dont Dieu récompense l'âme fidèle et confiante, ce point de repos absolu qui sera un jour l'éternelle rémunération des enfants de Dieu. Désormais, il n'y avait plus en lui aucune velléité d'analyse de soi-même, ni de réflexion sur autrui. Il avait franchi le cercle où l'âme regarde au-dedans de soi, pour s'élever à celui d'où elle regarde la gloire imminente. Et le premier signe par lequel il reconnut que le temps s'écoulait fut un murmure soudain de voix dont il put entendre les paroles distinctement et les comprendre et s'associer lui-même à les dire, encore que tout cela lui apparût comme à travers un voile, ne laissant arriver à lui que la pure essence des paroles et des choses. Spiritus Domini repleuit orbem terrarum. L'Esprit du Seigneur a rempli le monde, Alléluia, et toutes les choses ont maintenant connaissance de sa voix, Alléluia. Puis la voix qui prononçait les mots latins parut s'élever doucement. Que Dieu surgisse et que ses ennemis soient dispersés, et que celui qui le déteste s'enfuit devant son visage, Gloria Patri. Le Syrien redressa sa tête alourdie. Une figure fantomale était debout à l'autel. Une haute figure blanche qui semblait flotter dans l'air plutôt que reposer sur le sol, les mains étendues, une calotte blanche sur ses cheveux blancs. La figure brillait dans le reflet des cierges. Kyrie eleison, gloria in excelsis Deo. Et le prêtre entendit et répéta ses prières, mais son âme passive ne fit aucun effort de réflexion, jusqu'au moment où des paroles moins habituelles tout à coup le frappèrent. Lorsque le jour de la Pentecôte fut venu, tous les disciples d'un même accord se trouvaient réunis au même endroit. Et voici qu'arriva tout à coup du ciel un grand bruit, comme celui d'un vent puissant qui soufflerait, et il remplit la maison où ils étaient assis. Alors le Syrien se rappela et comprit. En effet, c'était le matin de la Pentecôte. Et avec ce retour de la mémoire, la réflexion lui revint. Où donc était-il le vent et la flamme et la voix secrète? Le monde était silencieux, concentré dans son suprême effort d'affirmation de lui-même. Aucun frisson, aucun tremblement ne montrait que Dieu se souvint. Aucune lumière ne venait rompre la voûte sinistre de ténèbres étendues sur les terres et les mers pour révéler que Dieu continuait à briller dans le cœur de l'homme. Et il n'y avait pas même une voix qui jaillit du silence. Mais aussitôt le prêtre, avec l'assurance que lui avaient donné les paroles de son maître, se sentit tout joyeux de cet aspect des choses, bien loin à présent de s'en effrayer. Car il comprit que ce monde prochain dont la venue s'annonçait ainsi, sans aucun des signes affreux qu'il avait redouté, que ce monde était tout autre qu'il ne l'avait craint, doux et non point terrible, accueillant et non point hostile, clair et non point ténébreux, et semblable à la maison natale au lieu d'être un exil. Il laissa retomber sa tête sur ses mains, à la fois honteux de ses frayeurs précédentes et satisfait de sa sécurité reconquise. Et de nouveau, sa personnalité s'effaça, il retomba aux profondeurs de la paix intime. Mais, tout à coup, au moment où la messe finissait et où le prêtre se baissait pour recevoir la dernière bénédiction de son maître, il y eut un cri, une clameur soudaine dans le corridor, et un des habitants du village se montra sur le seuil de la chapelle, murmurant précipitamment des phrases en langue arabe. « Vite, vite, tout le monde dehors, des vaisseaux aériens accourent vers Nazareth, la maison de l'Européen menacée, condamnée à la destruction. »